On est dans notre étude du livre de Jean, l'évangile de Jean, et on est arrivé au chapitre 17, c'est la prière de Jésus. Quand je lis les évangiles, souvent au chapitre 11 de l'évangile de Luc, je trouve que on trouve Jésus qui était en train de prier à un certain jour, à un certain lieu. Et les disciples, après avoir vu Jésus prier, ils lui ont dit « Mais Seigneur, enseigne-nous à prier, on voudrait apprendre, on voudrait connaître. » Et le Seigneur explique comment prier. Et puis, dans ce que nous on a appelé le Notre Père. Et ici, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, on entend Jésus prier. Et imaginez cela, ce que ça signifie. Quand on est dans ce chapitre 17, on entend Jésus prier. Il a un rôle de souverain sacrificateur, on a vu ça tout le temps là, dans cette présidence de culte. Et ici, il nous explique ce qu'il demande, comment il intercède pour nous devant le Père. Je trouve ça merveilleux de pouvoir avoir ce privilège, de pouvoir entendre la prière de Jésus, de voir un peu ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Certainement, un avantage de ces 1000 heures de prière et de ce temps que l'on passe ensemble dans la prière, c'est que certainement on apprend à bien mieux se connaître. Parce que dans la prière, on est tel que l'on est devant Dieu, souvent mendiant son secours, son aide. Et on apprend vraiment à se connaître. J'imagine que quand on étudie ce chapitre 17, on apprend à connaître Jésus, qui il est, comment il intercède pour nous. Je vous propose de faire cette lecture. On a déjà vu une partie de le début de sa prière la semaine dernière. Je vous propose de prendre à partir du verset 6. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour le privilège de pouvoir entrer dans ta communion, Seigneur, et entendre ta prière, ce qui pèse sur ton cœur, dans cette heure si solennelle qui précède ton arrestation, Seigneur, et ta crucifixion. Seigneur, nous découvrons un peu ce qui pèse sur ton âme, ce que tu veux prier pour tes enfants, pour tes disciples, pour ces 11 qui t'ont accompagné, Seigneur. Et on te prie pour que, Seigneur, on comprenne un peu pour mieux ces choses, pour nous-mêmes, Seigneur. On te prie pour que tu nous les révèles, et que tu parles à nos cœurs ce matin et que tu transformes nos cœurs pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, je vous propose de regarder un peu de plus près cette prière du Seigneur Jésus. Et je ne sais pas si vous avez relevé, mais il y a quelques... au verset 11, au verset 15 et au verset 17, il y a ces verbes « garde-les, préserve-les, sanctifie-les ». Et je crois que c'est les trois choses que le Seigneur Jésus demande à ses disciples, au Père pour ses disciples. Il demande qu'ils soient gardés du péché qui unit, qui nuit à l'unité, préservés du malin qui voile notre identité, et puis enfin sanctifiés par la vérité pour œuvrer dans le monde. Je vous propose de regarder tout d'abord Jésus qui prie pour ses disciples afin qu'ils soient gardés et gardés du péché qui nuit à notre unité. Il prie pour ses disciples et une courte étude des disciples, du comportement des disciples du Seigneur va nous aider à comprendre pourquoi Jésus a prié en leur faveur et certainement aussi pourquoi il doit prier en notre faveur. Ils sont plus que 11 ici parce que Judas les a quittés pour aller livrer le Seigneur Jésus. Et les disciples, c'était vraiment des hommes ordinaires. Si vous vous souvenez un petit peu de chacun d'eux, on les connaît dans, et c'est là ce qui fait la vérité de la parole de Dieu, c'est qu'elle nous décrit tel que nous sommes véritablement. Elle décrit des hommes ordinaires, ayant des faiblesses ordinaires. Pierre, lui, pensait, par exemple, être prêt à mourir pour Jésus. Et puis Jésus lui passe une douche froide, terrible, et lui dit « Tu donneras ta vie pour moi ?» en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. » Vous imaginez l'apôtre Pierre, lui qui s'était soucié de savoir qui allait trahir le Seigneur Jésus auprès de Jean, lui a dit, demande au maître, qui va le trahir? Et là, il est déconcerté par la prédiction du Seigneur Jésus. Quand on étudie les autres. Il y a ce Pierre donc impétueux, mais il y a aussi Thomas. Thomas, il était sceptique. Il ne fait pas confiance. Il y avait Jacques et Jean, qui étaient sans doute des coléreux. Hein, ils sont appelés fils du tonnerre. Un jour, ils veulent réclamer, parce qu'ils sont mal reçus dans un village. Ils disent, Seigneur, tu veux qu'on demande la foudre de tomber sur le village? Oh là là, calmez-vous les gars. Calmez-vous. À l'instar de Philippe, le reste des disciples manquait de discernement spirituel. Un jour, Philippe dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et je lui dis, mais Philippe, ça fait tellement longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis là pour le révéler. Comme Jude, appelé aussi Thaddée, aucun n'a réussi à saisir le rôle que Christ a joué au cours de sa première venue, comme serviteur, comme homme de douleur. À l'instar des fils de Zébédée, ils ont tous fait preuve d'orgueil et du désir d'occuper une position importante au sein du groupe. Et à l'instar de Pierre, ils ont tous fait preuve de lâcheté lors de l'arrestation du Seigneur. Ils ont tous abandonné le Seigneur Jésus. En fait, leur détermination spirituelle était faible, tellement faible, au point que lorsqu'ils étaient censés prier au plus fort de l'agonie du Seigneur Jésus, Jésus les a retrouvés endormis. Du point de vue humain, ces hommes n'avaient rien d'extraordinaire, rien d'impressionnant. Pourtant, ils ont été appelés à poursuivre l'œuvre de Jésus-Christ dans le monde après son départ. Et ils l'ont fait. Et ils ont annoncé l'évangile au monde, ce qui montre que la prière de Jésus a été exaucée. Il y avait tellement de différences entre les disciples. C'est un vrai miracle qu'ils soient restés unis et qu'ils aient accompli l'œuvre du Seigneur. Ils étaient tous de statut social différent. Il y avait les fils de Jonas, ça c'était la petite entreprise familiale. Et puis il y avait les fils de Zébédée, eux ils appartenaient à la holding Zébédée. Ils avaient des serviteurs, ils avaient d'autres ouvriers. Il y avait dans leurs convictions politiques des différences. Matthieu, lui, il venait d'être publicain, collabo avec l'Empire romain. Et Simon, le zélote, lui, c'était le patriote. Vous imaginez mettre ces deux gars ensemble? Même à l'intérieur d'une même fratrie, il semble qu'il y avait des différences. Entre Pierre et André, on voit bien qu'il y en a un qui est tellement extraverti et l'autre qui est plutôt discret. Il y avait des copains d'enfance, puis il y avait des nouveaux. Il y avait des personnalités tumultueuses, et puis d'autres plus effacées. Il y avait des gars qui étaient des leaders, et puis il y avait d'autres qui étaient là, qui assistaient, qui soutenaient. Le Seigneur Jésus ne s'est pas trompé en les choisissant. Il se souvenait, il avait passé la nuit en prière avant de les choisir. Tant que Jésus était au milieu d'eux, au fond, et que chacun servait le maître, et non ses propres intérêts, tout se passait bien au milieu d'eux. C'est Jésus qui est le garant de l'unité. C'est lui, c'est son service à lui qui nous pousse à nous surpasser. C'est le fait de servir une cause qui nous dépasse, qui est plus grande que la nôtre, et qui nous unit, qui nous garde unis. C'est de poursuivre une gloire plus éclatante que tout ce que pourrait nous offrir le monde qui nous unit. Et ce que nous ne pouvons pas accomplir seuls, Dieu le fait avec son peuple, avec ceux qui sont unis avec lui. L'impossible se réalise lorsque les individus sont mis en mouvement dans l'œuvre de Dieu, d'une manière qui est harmonieuse, une manière qui est conduite par le Saint-Esprit dans le but de glorifier Dieu. Mais là, Jésus s'en va. Et c'est pour ça qu'il prie, garde-les. Et il explique que tout le temps où il était avec eux, pendant ces 3 ans de ministère, il les a gardés parce qu'il était là. Il était là toujours pour les remettre un peu en place, pour leur montrer le modèle à suivre. Mais là, il dit, maintenant, je quitte le monde. Je ne suis plus dans le monde. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et donc, Jésus, il a ce souci dans son cœur. Mais Seigneur, garde-les unis. Maintenant que je m'en vais, il faut que toi, tu les gardes. Il faut que tu poursuives cette œuvre que j'ai commencé à faire. Et l'unité de ses disciples, c'est un thème tellement important dans la vie de prière de Jésus. Regardez ce qu'il dit, verset 11. Il dit, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Un peu plus loin, verset 21. Il dit, afin que tous soient un. Verset 21 encore, afin qu'eux aussi soient un en nous. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et regardez encore verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Parfaitement un. Ça veut dire qu'on peut encore progresser dans l'unité. Et Jésus prie cinq reprises. Seigneur, qu'ils soient un. Lorsque Jésus prie 5 fois, qu'ils soient un, on peut quand même supposer que c'est un sujet essentiel pour lui, que nous soyons unis. Et puis il en donne 2 fois la raison, dans les versets 21 et 23, et il dit, verset 21 tout d'abord, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et puis verset 23, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le but de l'unité, c'est de montrer au monde que Jésus est le Sauveur, le seul qui puisse nous unir, le seul qui puisse nous sauver de notre état de péché. Alors quand Jésus Et il nous donne aussi le moyen de le faire, en envoyant son esprit au-dedans de nous. Ça, c'est les versets 23, notamment. Il dit « Moi en eux, et toi en moi ». Il nous a donné sa gloire. Hein, la gloire, c'est au verset 22, c'est le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Quand Jésus prépare son départ, le moment où il quitte le monde, sa prière, c'est donc « Père Saint, garde-les afin qu'ils soient un comme nous sommes un ». L'unité, c'est un peu comme une plante. L'unité, il y a une semence, et au fond, la semence, c'est comme le projet ou l'objectif que l'on s'est fixé. La vision que l'on a. Pour les croyants, ce serait, devrait toujours être de glorifier Dieu. Quel que soit l'objectif est de glorifier Dieu dans cet objectif. Mais quand on prépare un mariage, l'objectif c'est d'être unis pour glorifier Dieu. Mais on a un projet ensemble. On est unis autour d'une idée que l'on a du mariage. Quand on veut être unis dans un projet d'église, on a besoin de comprendre quel est le projet. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et ce projet-là, il nous unit. Quand on veut partir en mission, on est en train de préparer ce voyage à Wolo, on est en train de réfléchir, Seigneur, comment est-ce que qu'est-ce que tu es en train de faire? Quel est l'objectif du voyage? Et comment nous, on va entrer dans cet objectif et servir cet objectif? Donc, l'unité, c'est, il y a un objectif, il y a une vision, il y a un projet commun qui est adopté par chacun. Et ça, c'est un petit peu comme la semence. Pour qu'elle puisse se développer, il lui faut aussi une bonne terre. Et la terre, ici, ce serait la sainteté, la vérité. Vous savez, s'il n'y a pas ce lien de sainteté, ça va corrompre notre projet. Et l'unité ne pourra pas se développer. Et puis, il faut aussi un climat. Le climat, c'est, je pense, c'est l'amour dans lequel on va développer le projet. Essayez de réfléchir à ça. L'unité comme une plante qui pousse dans une terre de sainteté, de vérité, et puis un climat d'amour. Ceux qui veulent cultiver l'unité savent que ce n'est pas une petite affaire. Il y a de grands dangers qui menacent l'unité, des grands dangers qui visent à détruire la semence, le projet, à pourrir le climat, l'amour, ou à corrompre la terre, la sainteté et la vérité. Ces dangers, ils proviennent tous de nos propres cœurs. Ils proviennent tous de nos cœurs de pécheurs. Et si on faisait un peu le catalogue, un peu de tous les dangers qui menacent l'unité, eh bien, on pourrait parler certainement de la jalousie, de la haine, des frictions, de l'individualisme, de l'égoïsme, de l'amertume, du refus de pardonner, de la langue de vipère. Tous ces vices portent atteinte au climat, à l'amour. Le catalogue comprendrait aussi également l'esprit franc-tireur, le manque de coopération, l'impatience, la critique systématique qui vont à l'encontre du projet. Et puis aussi toutes sortes de péchés que l'on peut entretenir dans nos vies et qui corrompent la sainteté de l'ensemble. La sainteté qui est nécessaire au développement de l'unité. Et encore, on pourrait dire le mensonge, les demi-vérités, le refus de reconnaître l'erreur, le refus d'apprendre d'autrui, le scepticisme chronique, toutes ces attitudes nuisent à la vérité et au développement de l'unité. C'est pour ça que Jésus prie à ce moment-là, « Père Saint, garde-les ». C'est la seule fois qu'on trouve cette expression dans le Nouveau Testament, « Père Saint ». Je suppose que si Jésus appelle le Père Saint à ce moment-là, c'est véritablement que la pensée de Jésus et de que nous soyons gardés de chacun de ces péchés qui empêchent l'unité de se développer. Vous avez remarqué, il ne s'agit pas de créer l'unité, simplement de la laisser pousser. Elle a été faite par lui, par son Esprit Saint, dans nos cœurs. Si Jésus prie que nous soyons gardés de ces péchés qui empêchent l'unité de se développer, est-ce que nous aussi on pourrait faire cette prière? Seigneur, délivre-nous de tous ces maux. Si Jésus prie le Père de la sorte pour ses disciples, nous devrions prier également de cette manière pour nous-mêmes. L'unité, si elle est mise à mal par nos cœurs de pécheurs, on devrait prier comme Jésus nous le demande de le faire, et comment il nous a appris à le faire dans le Notre Père. Garde-nous de céder à la tentation. Délivre-nous du malin, du diable. Ça, c'est ma deuxième pensée ce matin. Préserve-les du malin. Ça, c'est ce que l'on trouve au verset 15 dans notre passage. Cette partie, vous avez remarqué que ce verset 15, il est encadré par 14 et 16, bien entendu, où il parle de ce que nous ne sommes plus du monde. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Et ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » La pensée de Jésus ici, c'est de nous préserver du malin, et c'est encadré par ces deux versets qui parlent de ce que nous ne sommes plus du monde. Généralement, quand on évoque cette notion de ne pas être du monde, on dit, un chrétien malin, il sort du monde. Alors, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il fait plus? Eh ben, il va plus en boîte de nuit. Ouais, bon. Il arrête de fumer. Ouais, bon. Et puis, il arrête de boire à excès. Ouais, bon. Et puis, il arrête la débauche. Quand il a fait tout ça, il a le sentiment, je ne suis plus dans le monde. Est-ce que vraiment c'est ça, ce dont Jésus parle? Certainement, c'est bien d'arrêter ces choses-là. Mais Jésus, il est en train de parler davantage de la manière de penser du monde. L'identité du monde. C'est ça dont on doit être préservé. C'est une transformation de pensée. Et ça, c'est bien plus profond que tout ce que l'on a pu citer précédemment. Hein, il dit, si nous étions du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que nous ne sommes pas du monde, le prince de ce monde, le diable, cherche à nous nuire. Et c'est étrange, vous avez remarqué que Jésus ne prie pas de le Père d'ôter les disciples du monde, mais de les préserver du malin. Il ne veut pas les protéger nécessairement de la haine du monde. Vous avez remarqué ça, hein, dans le chapitre 16, le chapitre précédent, il avait dit « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Et à la fin de ce chapitre 16, verset 33, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Jésus n'a jamais dit « Je vais vous épargner de toutes les difficultés de ce monde. » Mais ce que je veux faire pour vous, c'est vous préserver du malin. La plupart des disciples, d'ailleurs, vont mourir de mort violente dans la persécution. Le prince de ce monde, il peut fermer nos églises, il peut nous jeter en prison, il peut prendre nos Bibles et nos livres, et même prendre nos vies. Mais il ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il ne peut pas nous ramener dans le monde. L'intercession du Seigneur Jésus en faveur de son peuple nous garantit que Satan ne parviendra pas à lui ravir aucun de ses membres. Nous sommes à Christ, nous sommes ses enfants, nous sommes citoyens des cieux, nous pouvons vivre dès aujourd'hui comme tels. Et le diable ne peut pas porter atteinte à ce que nous sommes. La seule chose que le diable peut faire, c'est voiler à nos yeux ce que nous sommes. Le diable voudrait nous faire croire que nous pourrions vivre comme le monde et être heureux. Mensonge. Que nous pourrions trouver la joie ultime dans la vie professionnelle. Que nous pourrions jouir du péché et de la communion avec Dieu. Mensonge. Que nous pourrions aimer, servir Dieu et servir Mammon, le Dieu de l'argent. Il est menteur. Votre identité, c'est ce que vous êtes réellement, et ça, ça ne peut vous être repris. Et ça ne peut pas être changé. En préparant ce message, j'ai fait le truc. J'ai sorti ma pièce d'identité, ma carte d'identité. Et j'ai regardé ce qu'il y a sur ma carte d'identité. Faites la même chose. Il y a votre nom, il y a votre nationalité, il y a votre date de naissance. Et il y a votre sexe. Ces choses-là, ce sont votre identité. Ces choses constituent votre identité. Elles ne peuvent pas changer. Elles ne peuvent pas être reprises. Mais sur votre carte d'identité, ne figure pas votre épouse, parce que vous pouvez ne pas en avoir. Sur votre carte d'identité ne figure pas non plus votre capital à la banque. Ça pourrait intéresser les douaniers, peut-être. Votre profession n'y est pas. Le nombre de vos enfants n'y est pas. Le nombre d'amis Facebook n'y est pas. Votre état de santé n'y est pas. Votre dernier chrono au trail n'y est pas. Je sais que ça va blesser quelques-uns, mais c'est la vérité. Parce que ces choses ne nous définissent pas. Ces choses ne nous définissent pas. Nous ne sommes pas une profession, un compte en banque. Nous ne sommes pas un père avec une ribambelle d'enfants. Nous ne sommes pas ces choses-là. Mais la ruse du diable est de nous faire croire que ces dernières choses constituent notre identité et non plus Christ. En Christ, nous avons reçu une nouvelle identité. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes citoyens des cieux. Nous portons le nom de chrétiens. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes en train d'être transformés à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qui vous identifie. C'est votre identité en Jésus-Christ. Pas le reste. La ruse du diable est de me faire croire que je suis du monde. Et que ce qui me définit, c'est ce qui définit les choses de ce monde. Ma profession, mes finances, mes enfants, ma beauté, mes performances physiques ou intellectuelles. Et la plupart du temps, on se présente comme ça. Vincent Bourrel, pasteur. Pasteur de l'EBTM. Marie d'Anne-Sophie. Vous savez quoi? C'est pas mon identité. Un jour, je ne serai plus pasteur. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, je vais peut-être perdre ma femme. Mes enfants. Un jour, je vais peut-être perdre tout mon argent. Si ces choses me définissent et que je les perds, j'ai plus rien. Je ne suis plus rien. Vous vous rendez compte? Mais ces choses ne me définissent pas. Votre travail ne vous définisse pas, ne vous définit pas. Les autorités algériennes viennent de fermer l'église de nos frères à Oran. Et à Ouargla. Ils se sont saisis de leur Bible, de leur livre. Ils les traînent devant les tribunaux parce que l'un d'eux a ébranlé la foi d'un musulman. Que Dieu le bénisse. Mais un membre de notre cellule, là, du centre, est allé les visiter tout récemment. Il a assisté au dernier culte de l'église d'Oran. Vous savez ce qu'il nous a dit le mardi dernier? Il a ramené les coupures de journaux et tout ça. Et il a dit, les frères et sœurs là-bas, ils sont Ils ont échangé leur numéro de téléphone et ils sont joyeux. Ils sont joyeux. Ils sont joyeux. Pourquoi est-ce qu'ils sont joyeux? Pourquoi est-ce qu'ils ne perdent pas courage? Parce que les autorités ne peuvent pas leur enlever ce qu'ils sont. Ils sont enfants de Dieu, citoyens des cieux, vivants pour toujours. Ils portent le beau nom de chrétiens. Ils sont transformés de jour en jour à la ressemblance de Jésus-Christ, leur Sauveur. Ils sont aimés parfaitement par Dieu. Dieu est pour eux. Ça veut dire, rien n'a changé pour eux. Ils étaient joyeux avant et ils sont joyeux maintenant parce que rien n'a changé véritablement, parce que leur identité n'a pas été changée, n'a pas été transformée. Vous vous rendez compte de la chose? L'impact que ça peut avoir sur nos cœurs. Jésus répète, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, c'est-à-dire les choses qui définissent le monde ne nous définissent pas. Nous sommes définis par une autre pensée, bien plus élevée, bien plus glorieuse. La protection pour laquelle Jésus-Christ prie pour nous, c'est que le malin ne nous trompe pas dans notre cœur sur ce que nous sommes véritablement. Qu'il ne nous voile pas ce que nous sommes en Jésus-Christ. Il prie pour que le diable ne nous manipule pas, manipule pas. Il prie pour que nous voyons clair sur cette notion d'identité. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile de vivre sagement dans ce monde, sans se laisser impacter, influencer par les critères, par la pensée du monde. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas prier d'autant plus? Père, préserve-nous du malin! Et puis enfin, Jésus prie le Père de nous sanctifier par la vérité. Et cela dans le but d'œuvrer pour le monde. C'est difficile de faire du vélo à l'arrêt. Et il ne nous viendrait pas à l'idée de donner un cours à quelqu'un qui veut apprendre à faire du vélo en deux leçons. D'abord, tu montes sur le vélo et tu essayes de tenir l'équilibre. Et puis ensuite, tu iras sur la route et tu prendras de la vitesse. Ça n'aurait aucun sens. Parce que c'est précisément le mouvement qui nous permet de tenir l'équilibre. Et c'est aussi dans l'action que l'on apprend. Il faut faire pour savoir faire. On voudrait qu'une personne soit sainte avant de lui confier une charge dans l'œuvre de Dieu. On pense à raison que Dieu œuvre avec des hommes saints. C'est vrai. De la même manière qu'il faut tenir l'équilibre pour faire du vélo. Mais la sainteté est utile parce que l'on sert. De même que de savoir tenir l'équilibre, c'est utile parce que l'on roule. D'ailleurs, le sens biblique du mot « saint », que ce soit en hébreu ou en grec, le mot « kadosh » ou « agios », a ces deux sens. C'est l'idée de pureté et puis l'idée d'être consacré, d'être mis à part pour un service. Et quand Jésus prie « Père, sanctifie-les », il a ces deux sens dans sa tête. Purifie leur cœur pour qu'ils soient envoyés dans mon œuvre, qu'ils soient mis à part pour moi. Être sanctifié, c'est être mis à part pour Dieu et pour son projet. Et Jésus demande donc à Dieu de mettre à part les croyants pour son propre usage, pour les envoyer dans le monde. La parole de Dieu, la vérité, hein, verset 17, c'est l'agent purificateur, l'agent sanctifiant qui opère dans notre cœur. C'est par la parole qu'on est sanctifié, c'est-à-dire purifié et mis à part, consacré. Et plus on va étudier la parole de Dieu, plus on va la méditer dans nos cœurs, la ruminer dans notre pensée, l'étudier, et plus notre cœur va être transformé, sanctifié et prêt pour le service. En fait, nous sommes ce que nous pensons. Si nous pensons ce que la Bible pense, nous serons conformes à Jésus-Christ. Nous serons conformes à Jésus. Paul dit, nous sommes transformés. Quand on plonge nos regards dans la parole, on est transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Mais on est transformés dans le but d'être envoyé dans le monde. À quelques heures de son arrestation, de sa mise à mort en croix, Jésus prie, Père, sanctifie-les par ta vérité. Et au verset 18, on comprend très bien de quoi il s'agit. Verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Si je les sanctifie, c'est pour les envoyer dans le monde. Ça n'a pas de sens autrement. Au verset 19, il explique sa mission. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Sa sanctification à lui, c'est de se donner jusqu'à la mort sur la croix pour nous, afin que de payer le prix de notre rachat, afin de nous rendre saints. Et notre sanctification à nous, c'est de porter l'image de Jésus-Christ dans ce monde, d'annoncer le message de l'Évangile pour que le monde croie à notre parole. Ça, c'est le verset 20. Nous avions dimanche dernier notre réunion de préparation au voyage missionnaire à Wolo pour le mois d'octobre. L'instant où les personnes se projettent dans une telle aventure, elles réalisent qu'elles ont besoin de sainteté, de foi, de courage, d'amour, de sagesse. Jésus prie, Père, sanctifie-les par ta vérité. Parce qu'ils sont envoyés comme moi dans ce monde. Nous avons besoin d'être sanctifiés parce qu'il nous a missionnés pour le glorifier dans ce monde. Presque instinctivement, lorsqu'on pense être missionnaire dans ce monde, on vient vers Dieu dans la prière et on veut mieux le connaître en lisant, en méditant sa parole. Jésus le sait et il prie « Sanctifie-les ». Est-ce aussi notre prière ? Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, transforme-moi, puisque tu m'as envoyé dans ce monde. Nous savons que les prières du Père, de Jésus au Père, sont toujours exaucées. Parce que Jésus, il demande toujours ce que veut le Père. Ce que le Fils veut, c'est ce que le Père veut. Ce que le Père veut, c'est ce que le Fils veut aussi. Et dans la prière de Jésus, on découvre très précisément ce que Jésus veut, ce qu'il demande, ce que le Père veut, ce que le Père veut exaucer. Pour nous, que nous soyons gardés du péché, afin que l'unité des enfants de Dieu soit parfaite, afin que le monde croie que Jésus est le Sauveur. Est-ce aussi notre prière ? Jésus prie que nous soyons préservés du malin qui cherche à voiler notre identité parce que nous ne sommes pas du monde. Est-ce aussi notre prière ? Préserve-nous du malin. Il veut que nous soyons sanctifiés par la vérité, par la parole, afin d'être ambassadeurs de Christ dans ce monde. Est-ce aussi notre prière ? Mes frères et sœurs, reconnaissons que nos prières ressemblent assez peu à celles de Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a prié pour nous. Et puis qu'il s'est sanctifié pour nous. Il est allé, verset 19, à la croix pour nous. Nos péchés qui menacent l'unité, Ils ont été payés à la croix. On en est délivré à la croix. Le prince de ce monde qui veut voiler notre identité en Jésus-Christ et essayer de nous conformer à l'identité de ce monde, il a été dépouillé. Il a été vaincu à la croix. Jésus-Christ a été envoyé dans ce monde pour qu'on soit sauvés et il nous envoie à son tour et il nous a sauvés par la croix. Et le message que nous devons prêcher dans ce monde, c'est la croix de Christ. Comprenez, tout est centré sur cette œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous. Et il prie. Aujourd'hui, il prie pour chacun de ses enfants. Il prie pour ses disciples. Et il est toujours exaucé. La Bible dit, on l'a lu tout à l'heure, je veux le relire, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. En fin de compte, ce n'est pas la qualité de nos prières et de nos œuvres qui nous sauvent, mais les siennes, toujours parfaites, toujours efficaces. Et ça doit nous encourager à aller de l'avant.